Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces est reportée au 6 mai prochain pour notamment des raisons financières et les soucis d'inclusivité. La CENI qui annonce cette nouvelle dans un communiqué rendu public hier mercredi 23 février précise que, vu le report de ces scrutins, la période d'enregistrement est prolongée jusqu'au 24 mars. Les listes provisoires seront rendues publiques le 2 avril, tandis que celles définitives devront être dévoilées le 21 avril. Quelle analyse faire de la décision de reporter l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Dieudonné Mirimo, il est expert électoral, il est secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale, FEAC en sigle. Il est également ancien rapporteur de la commission électorale indépendante CEI en sigle. Bonsoir monsieur Dieudonné Mirimo.
Bonsoir monsieur Guimati.
Professeur Bob Kabamba, il est professeur à l'université de Liège en Belgique, il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Bonsoir professeur Bob Kabamba.
Bonsoir à vous et aux auditeurs de Radio Capi ainsi qu'à mon co-débatteur monsieur Mirimo.
Et Robert Kabakela, il est coordonnateur national adjoint de la nouvelle société civile congolaise. Bonsoir Robert Kabakela.
Bonsoir, merci. Bonsoir, auditeur de la Radio Capi. Bonsoir, professeur Bob. Bonsoir, monsieur Mirimo.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces est reportée au 6 mai prochain. La CENI qui a annoncé cette nouvelle dans un communiqué publié hier mercredi évoque notamment des raisons financières. Aubin Abedi pour les détails.
En rapport avec le récent calendrier, le processus de réception des candidatures a été clôturé ce même mercredi selon la CENI. Au total, 67 dossiers de candidature ont été déposés dont 11 femmes et 56 hommes. Aucune candidature n'a été réceptionnée à la province de la Lomami. Cependant, précise la CENI, vu le report de ces scrutins, la période d'enregistrement est prolongée jusqu'au 24 mars. Les listes provisoires seront rendues publiques le 2 avril, tandis que celles définitives devront être dévoilées le 21 avril. La centrale électorale avait initialement prévu l'élection des gouverneurs au 6 avril prochain. Ces élections concernent les provinces de Bazouélé, Olomami, des Lomami, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Maïndombe, du Maniema, de la Mongala, du Tanganyika, de la Tchopo, ainsi que l'élection des vice-gouverneurs des provinces de Kinshasa et du Kwango.
Merci à vous, Aubin Abedi. Dieudonné Mirimo, je rappelle que vous êtes expert électoral et secrétaire général de l'école des formations électorales en Afrique centrale, FEAC en sigle. Vous êtes également ancien rapporteur de la commission électorale indépendante CI en sigle. Dans ses communiqués de la CENI, elle avance des raisons principales pour justifier ses reports, à savoir les raisons financières et les soucis d'inclusivité. D'abord, quand on parle des questions financières, on voit tout de suite le budget. On sait qu'il s'agit d'élections indirectes où l'électorat est constitué des députés provinciaux. La logistique n'est pas assez importante que quand il s'agit des scrutins directs. Monsieur Mirimo, cette élection dans les 14 provinces pourrait nécessiter un budget important.
Merci beaucoup Guimat et j'en profite pour saluer les auditeurs de Radio Capi ainsi que mes deux débatteurs, M. Kabakela et Bob Kabamba. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante, c'est comme vous l'avez dit, une élection indirecte. Et cette élection intervient après que l'élection générale ait été organisée en 2018 et 2019. Et donc, pour organiser cette élection, la CENI a besoin d'élaborer un calendrier à part, spécifique à cette élection. La CENI a également besoin d'un budget spécifique à cette élection. C'est vrai que ce n'est pas des budgets énormes, des montants importants, mais quand même, ça nécessite des moyens pour organiser cette élection, quand bien même elle serait indirecte. Parce qu'il y a des agents qui vont être formés, qui vont être déployés, notamment pour la réception et le traitement des candidatures et pour la transmission des dossiers à Kinshasa, où les candidatures seront validées en définitive par la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, quand la CENI, on lui demande d'organiser une élection comme celle-là, elle soumet au gouvernement un budget approprié pour lui permettre de pouvoir organiser cette élection. Et je suppose que la CENI a soumis au gouvernement un budget pour lui permettre d'organiser cette élection avant de pouvoir annoncer le calendrier. Il vous souviendra que depuis plusieurs semaines, on annonçait la tenue de l'élection des gouverneurs dans les 14 provinces. Elle a été repoussée plusieurs fois jusqu'au moment où nous avons suivi la CENI publier le calendrier pour l'organisation de ces scrutins. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que le calendrier a été rendu public en supposant, comme je l'ai indiqué, que la CENI a reçu les moyens pour lui permettre de dérouler son calendrier, mais à mi-parcours, elle sort un communiqué pour reporter l'élection pour des raisons budgétaires, des raisons de financement. Je me pose la même question que vous. Est-ce que on a financé partiellement cette élection ou on n'avait pas libéré la totalité, mais au moins le communiqué de la CENI est clair que c'est pour des raisons de financement et d'inclusivité qu'ils ont reporté l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14.
Oui, lors des récentes sorties médiatiques du président de la CENI et du ministre des Finances, les deux personnalités, hein, on se rappelle qu'elles se sont, n'est-ce pas, contredites au sujet du financement du processus électoral en cours. Monsieur Mirimo, cette guéguerre ne peut pas expliquer les raisons financières qu'évoque la CENI dans ses communiqués.
Par rapport au report de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, je ne crois pas. Parce que quand le président de la CENI est passé dans le média pour dire qu'il n'a pas encore reçu l'argent pour lui permettre de préparer les élections de 2023 et au-delà, il avait déjà rendu public le calendrier pour l'organisation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces. Ce qui suppose qu'il avait déjà reçu le financement pour lui permettre d'organiser cette élection-là. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il ne peut pas publier le calendrier s'il n'a pas reçu du gouvernement le budget y afférent. Et donc, cette guerre que nous avons tous suivie est intervenue après la publication du calendrier. Donc, je suppose que la CENI avait déjà reçu les moyens nécessaires pour lui permettre d'organiser cette élection et donc prendre en charge toutes les étapes qui doivent conduire à l'organisation de cette élection.
Donc, les raisons financières évoquées par la CENI pourraient être des simples prétextes et les raisons pourraient être ailleurs.
Je ne peux pas l'affirmer parce que je ne suis pas... Nous nous en tenons au communiqué qu'ils ont rendu public. C'est un problème de financement. Peut-être qu'ils n'en ont pas réussi assez. Ou alors, ils ont voulu préfinancer en attendant que le gouvernement libère les fonds. C'est aussi une hypothèse. Et que au moment où ils doivent dérouler leur calendrier, le gouvernement n'a pas libéré. Et du coup, ils ne peuvent plus avancer. C'est comme ça qu'ils ont reporté dans l'espoir que le gouvernement pourra débloquer les fonds pour lui permettre de pouvoir organiser cette élection-là. Mais j'ai lu dans le communiqué qu'il doit y avoir au niveau de la Banque centrale, je crois, une dérogation qu'ils doivent obtenir pour lui permettre de pouvoir accéder à un certain niveau de fonds pour lui permettre donc d'assurer certaines dépenses et de fonctionnement et d'opérations au niveau de la CENI.
L'autre raison avancée par la CENI, c'est le souci d'inclusivité. Monsieur Mirimo, selon vous, inclusivité, parce qu'il y a des divergences de vues au sein de l'Union sacrée de la nation sur l'étiquette qu'aurait présenté cette plateforme au sujet de cette élection des gouverneurs, ou inclusivité parce que l'opposition boycotte cette élection?
Moi, je m'en tiens au communiqué qui a été rendu public par la CENI le 23 février dernier, où il est clairement dit que à la clôture des bureaux de réception et de traitement de candidature, la province de la Lomami n'a enregistré aucun dépôt de candidature. Donc, sur les 14 provinces qui sont programmées pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, une province n'a enregistré aucune candidature. Donc, ça ne permet pas à la CENI d'organiser l'élection dans cette province-là. Peut-être je peux supposer que c'est de ça qu'il s'agit quand il parle d'inclusivité. Parce que la CENI, je ne pense pas qu'elle va entrer dans les jeux des guéguerres entre les sociétaires, des regroupements et des partis politiques pour reporter la tenue de l'élection du calendrier auquel eux-mêmes ils avaient déjà rendu.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes, quelle lecture vous faites de la décision de la CENI de reporter cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces?
Merci pour la question. J'en profite pour saluer mon collègue Kabasela. Donc ici, par rapport à réponse à votre question, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut mettre en exergue. Les aspects techniques et ensuite les aspects politiques. Les aspects techniques, il est assez incompréhensible que lorsque j'entends même le secrétaire général que M. Mérim parler, effectivement, il a tout à fait raison. Quand il évoque, lorsque la CENI publie un calendrier, surtout par rapport à l'élection des gouverneurs, qui est une élection indirecte, ça veut dire qu'elle a déjà levé tout ce qu'on appelle les préalables à l'organisation de cette élection. C'est pour ça qu'on publie un calendrier. Et lorsqu'on publie un calendrier, c'est une décision et qu'on a déjà tous les éléments, ça veut dire qu'on a déjà tout ce qui est préalable, tout ce qui est contrainte, ont déjà été levés pour pouvoir publier ce calendrier-là. Lorsque l'on nous a communiqué le premier calendrier, il n'y avait pas de contrainte, ni contrainte budgétaire, ni contrainte organisationnelle. Alors, l'autre point par rapport toujours aux aspects techniques, on peut se poser la question aussi de savoir, dans ce cas-là, est-ce que dans les 14 provinces, du fait qu'il y a eu renouvellement au niveau des dirigeants de la CENI à Kinshasa, est-ce que dans les 14 provinces, le démembrement de la CENI était effectif pour permettre justement aux CEP, c'est-à-dire les secrétariats exécutifs provinciaux, de pouvoir organiser ces élections à leur niveau? Ça veut dire, est-ce que tout le personnel indispensables pour l'organisation de ces élections sont bien en place, sont outillés pour pouvoir l'organiser. Et si cette question est posée, cela veut dire que ça pose vraiment beaucoup de questions au niveau de la gouvernance et aussi des leaderships au niveau de la CENI et qui, malheureusement, n'augure pas la confiance par rapport à la suite des événements, par rapport à la suite donc des processus que tous les Congolais attendent, c'est-à-dire pour 2023. Alors, l'autre aspect que je trouve aussi, je pense ici que c'est l'aspect politique, lorsque eux-mêmes ils parlent d'inclusivité. Inclusivité, vous savez, là je vais contredire le secrétaire général Mérimo, lorsqu'il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de candidature, il n'y a pas d'élection. C'est tout aussi simple, ce n'est pas ça l'inclusivité. L'inclusivité, ça veut dire qu'il y ait, tout le monde participe à un processus électoral. Ce qui veut dire, en lisant le communiqué, je comprends qu'au niveau au niveau politique, il n'y a pas encore consensus sur les candidatures qui doivent être déposées au nom de telle famille ou telle famille politique. Et je vais faire à plusieurs communiqués de presse qui ont été diffusés pas plus tard qu'hier et avant-hier, où plusieurs plateformes politiques rejetaient la liste, une certaine liste qui avait été rendue publique. On ne sait pas cette liste, elle est correcte, validée ou pas validée, au nom de l'Union sacrée, et une liste qui n'arrive pas à avoir le consensus au sein de l'Union sacrée. Et ce qui peut augurer d'avoir des résultats qui ne répondent pas aux attentes, justement, de la plateforme de l'Union sacrée. De mon point de vue, c'est aussi une politique pour permettre à ce que l'Union sacrée arrive à s'harmoniser et à arriver à parler d'une seule voix et à proposer des candidatures, si pas communes, en tout cas d'avoir une dynamique politique, comme d'ailleurs le président de la République lui-même l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Il lui faut le levier provincial pour continuer à mettre en œuvre la politique qu'il a promis aux Congolais.
Autant il est incompréhensible, comme vous l'avez dit, vous l'avez relevé avec M. Miribon, que la CENI puisse élaborer et publier son calendrier alors qu'elle n'a pas encore reçu les ressources financières dont elle a besoin pour organiser ses élections. Autant il est incompréhensible, n'est-ce pas, que la CENI puisse envisager d'organiser des élections dans les 14 provinces aussi longtemps qu'elle n'est pas encore certaine que les personnels, n'est-ce pas, au niveau local, ne sont pas encore outillés pour organiser ces élections, comme vous l'avez dit, professeur Bob Kabamba.
Tout à fait. Alors là, parce que je vous souviens, lorsque la CENI elle-même, d'ailleurs, avait parlé des contraintes, elle parlait aussi du paiement, par exemple, des arriérés, les agents de la CENI qui ont fait plusieurs mois sans être payés. Est-ce que ces agents-là ont envoyé un message clair au niveau de la direction centrale en leur disant qu'il était hors de question qu'ils puissent organiser ce scrutin tant qu'ils n'étaient pas payés? C'est aussi une des questions que l'on peut se poser et qui peut être aussi une des techniques
du report de ce soldat. Et si c'était le cas aussi par rapport à cet aspect des choses, cela vraiment poserait d'énormes difficultés pour la suite et la crédibilité du processus. Alors, par rapport à ça aussi, il faut bien se rendre compte que c'est aussi le fait de reporter et de continuer à jouer dans l'incertitude crée un sentiment par rapport à la population de ne plus croire à un processus qui va être transparent et crédible. Et malheureusement, ce sont des faits et des éléments qui ne vont pas dans la consolidation d'une transparence d'un scrutin.
Au sujet de la question d'inclusivité, professeur, la CENI ne se serait pas rendue à l'évidence qu'organiser cette élection sans la participation de l'opposition, ce serait non seulement décrédibiliser cette élection, mais aussi décrédibiliser l'institution qui organise cette élection.
Non, vous savez, il y a dans beaucoup de démocraties, hein, il y a beaucoup, dans beaucoup de pays, il y a des partis politiques qui ne veulent pas participer à un processus. C'est tout à fait leur droit et c'est tout à fait légitime, ce qui n'empêche pas que l'élection puisse avoir lieu. Dans plusieurs pays, on a eu des boycotts, on a eu, vous vous souvenez vous-même, l'UDPS en 2006 avait boycotté l'élection, mais l'élection a été boycottée en 2006, mais ça n'a pas empêché l'élection de ne plus se tenir. Ici, par rapport à par rapport au caractère inclusif, de mon point de vue, ce n'est pas vraiment le fait que l'opposition ne participe pas. Mais si l'opposition ne donne pas de candidature, mais les députés provinciaux de l'opposition, eux les électeurs, eux j'imagine qu'ils vont participer aux élections. Ils vont participer aux élections à moins que le mot d'ordre de l'opposition est de dire que tous les députés provinciaux de l'opposition ne participent pas à ces élections. C'est aussi une autre chose. Mais dans le cas d'espèce, le fait que l'opposition ne participe pas ne constitue pas un frein par rapport à l'organisation d'un scrutin. D'autant plus que lorsque vous lisez vous-même les candidatures, vous avez quand même plusieurs candidatures. Vous avez aussi même des candidatures des indépendants qui ont déposé leur candidature. Et donc ça veut dire qu'ils n'appartiennent ni à l'opposition, ni à la majorité. Et donc il y a quand même une diversité et il y a une diversité même au sein de la majorité même. Il y a le des provinces où il y a 4 ou 5 candidatures, il y a plusieurs candidatures de la majorité. Ça, de mon point de vue, ça ne remet pas en cause le principe du caractère transparent et démocratique d'une élection.
Et j'ai posé la même question à M. Birimo lors des récentes sorties médiatiques du président de la CENI et du ministre des Finances. Les deux personnalités se sont contredites, n'est-ce pas, au sujet des fonds que la CENI avait reçus de la part du gouvernement. Cela ne peut pas expliquer les raisons financières qu'évoque la CENI dans son communiqué d'hier.
C'est là où le débat se pose. Si la CENI publie un calendrier d'élections provinciales, ça veut dire qu'il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de préalable, ça veut dire que les préalables et les contraintes sont déjà rencontrés. Ça veut dire que la CENI a son budget pour organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ça veut dire que la CENI est outillée techniquement pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que la CENI publie ce calendrier-là. Mais alors, après avoir publié, on revient avec des contraintes qui sont censées avoir été levées. Alors là, c'est ça qui crée encore plus de confusion et qui, de mon point de vue, va renforcer l'incompréhension ou les malentendus que l'on va avoir entre, d'une part, le ministre des Finances et, d'autre part, la CENI. Et peut-être bien que d'ici quelques heures, peut-être demain ou après-demain, le ministre des Finances a à nouveau un communiqué où il dit que non, il a déjà financé les élections provinciales. Donc on risque d'avoir encore une fois ce genre d'éléments qui vont encore à nouveau amener cette confusion et qui va malheureusement porter atteinte à la crédibilité du processus.
Robert Kabakela, coordonnateur national adjoint de la nouvelle société civile congolaise, que pensez-vous de cette décision de reporter cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs?
Merci. Deux ou trois questions qu'on se pose par rapport à ces reports. Est-ce que le calendrier a été publié sur base d'une promesse faite par le gouvernement au regard du ping-pong auquel nous avons assisté entre la CENI et le ministère des Finances par rapport à l'autonomie financière de la CENI? Est-ce que la promesse faite n'est pas tenue? C'est ainsi que, une fois de plus, la CENI décale les élections, l'élection des gouverneurs. Ce sont des questions que nous nous posons. Mais aussi, il y a cette question des émoluments des électeurs.
de 10 mois non perçus. Ils ont promis de ne pas participer à cette élection si jamais leurs émoluments ne sont pas payés. Est-ce c'est tout ça qui a fait que la CENI puisse décaler le calendrier? Ce sont autant de questions que nous nous posons. Est-ce que aussi, par rapport à l'inclusivité dont la CENI a fait allusion, l'inclusivité, est-ce parce que les listes, certains membres de l'opposition ou ceux qui devraient présenter leur candidature ne l'ont pas fait dans les délais? Je ne pense pas que cela soit vraiment une raison fondamentale. Nous pensons que cela ne soit pas une raison fondamentale de décalage de la date de l'organisation de l'élection, dans la mesure où, si à la date fixée par la CENI pour déposer les candidatures et qu'il n'y en a pas, on va constater, à mon sens, les statu quo, les refus pour les uns et les autres à participer à l'élection. Nous pensons que, pour nous, la question fondamentale ici, c'est l'autonomie administrative et financière de la CENI qui souffre. Si alors la CENI peut rendre public ce budget et nous dire exactement si il a reçu les fonds destinés à organiser cette élection. À ce moment-là, on sait se faire une idée sur à quel niveau les problèmes se posent. Mais nous laisser dans un flou où on ne communique rien sur les budgets destinés à l'organisation de ces élections, est-ce nous avons, la CENI a reçu ces budgets dans ses comptes, tout ça, c'est un flou qui est entretenu et qui ne nous permet pas de nous faire une idée fixe sur les reports de cette élection. Mais là aussi, nous estimons que c'est un décor qui est planté pour ne pas organiser les élections dans le délai par rapport aux élections générales qui doivent se tenir en 2023. Donc c'est une inquiétude dès lors que cette autonomie financière de la CENI pose problème au niveau du gouvernement qui ne veut pas ou qui n'a pas apparemment la volonté de respecter cette disposition de la loi organique qui dote la CENI de cette autonomie.
Robert Kabakela, beaucoup de choses ont été dites au sujet de cette élection. Certains partis politiques alliés de l'Union sacrée de la nation contestent la manière dont la gestion des ambitions a été faite. Certains députés provinciaux dénoncent le fait que certains candidats leur sont imposés. L'opposition, de son côté, boycotte cette élection. Au vu de tout cela, quelles sont les attentes de la société civile par rapport à cette élection, Monsieur Robert Kabakela?
Bon, là, c'est une organisation interne des partis politiques, des regroupements politiques. Pour nous, nous pensons qu'il faut que ces partis politiques tiennent compte des aspirations de la population. Il faut que, finalement, on cesse cette pratique qui consiste à se faire des guerres entre des partis politiques, des guerres de positionnement, au détriment de l'attente ou des attentes de la population, qui attend voir leurs entités connaître les débuts de développement, les entités connaître les débuts des résolutions des problèmes qui se posent, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de santé, les problèmes de sécurité, plutôt que les partis politiques qui s'accaparent de tout pour des intérêts égoïstes, pour des positionnements politiques. Et donc nous, en tant que nouvelle civile congolaise, nos attentes sont telles qu'il faut que finalement ces partis politiques comprennent que s'ils ont l'air, si bien que l'élection elle est indirecte, à travers nos élus, ils doivent savoir qu'ils sont là pour répondre, n'est-ce pas, à ce que nous avons comme besoin de développement au niveau de nos entités, au niveau des provinces. Imaginez-vous que depuis 2019 jusqu'à ce jour, on assiste à des ping-pong où les gouverneurs est injecté tout simplement parce qu'il n'a pas voulu, on présume, satisfaire à la demande de tel groupe de députés ou de tel autre député, parce que ce député n'est pas de mon obédience. Et c'est comme ça que toute la législature va se terminer sans qu'aucun acte soit posé dans le sens de répondre aux besoins de nos communautés. C'est très dangereux. Et nous pensons que de cette manière, la société civile ou l'université congolaise pourra dans les jours à venir mobiliser ces démembrements pour voir dans quelle mesure ils font pêcher d'une manière ou d'une autre ces genres de comportements dans les chefs de nos dirigeants politiques.
Et donc vous partagez cette opinion selon laquelle toute cette polémique autour du processus de cette élection prouve que les gouverneurs qui seront, n'est-ce pas, issus de ces scrutins ne vont pas se démarquer de ceux qui sont là actuellement avec des assemblées provinciales inféodées aux autorités morales et donc que l'instabilité dans les provinces ne se terminera pas nécessairement avec cette élection.
Au regard déjà des contestations, vous avez suivi, comme nous, comment les uns les autres se disent n'être pas concernés par rapport à la manière dont les candidats ont été désignés. Et donc, cela suppose que, comme on dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est-à-dire qu'on va terminer cette législature dans les mêmes conditions telles que nous avons commencé, dans cette instabilité permanente, et que la population ne retrouvera jamais son compte.
Merci. On va maintenant donner l'occasion aux auditeurs pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport à ces débats. Monsieur Dieudonné Mirimo, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Ah voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. Et professeur Bob Kabamba, vous allez répondre à monsieur Peter Maboudi. C'est un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
C'est monsieur Peter Maboudi, je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. La décision prise par le président de la CENI liée au report des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs est inappropriée et injustifiée, car la contrainte financière ne relève pas de la compétence de la CENI, mais plutôt du gouvernement central. Également, il ne revient pas à la CENI de juger le manque d'inclusivité, mais plutôt l'affaire des acteurs impliqués directement à ces scrutins. Cependant, nous constatons un signal fort dû au manque de planning de travail basé sur l'unicité et limité de la part de la CENI actuelle.
Professeur Bob Kabamba.
Oui, merci. En tout cas, merci. Je pense que l'auditeur a très bien compris la problématique. Et d'ailleurs, même qu'il ajoute même un autre élément qui est important, qui est justement que l'inclusivité, la CENI n'a qu'à enregistrer les candidatures et ça s'arrête là. Là, en mettant en la question de l'inclusivité, en fait, la CENI fait ce qu'on appelle fait référence et donc à un critère politique plutôt qu'à un critère technique. Et donc là, la CENI outrepasse, entre guillemets, un peu, en sachant très bien que c'est une organisation technique, une organisation indépendante avec des objectifs qui sont clairement identifiés. Ce n'est pas elle l'inclusivité liée au fait que l'opposition y soit ou n'y soit pas. Mais c'est plutôt, effectivement, c'est inverse le cas par rapport aux acteurs politiques eux-mêmes qui devaient dénoncer cet état de fait. Et alors là, de manière claire, ils pointent ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, un problème au niveau de la gouvernance de cette institution. Donc s'il y a un problème au niveau de la gouvernance de cette institution, la conséquence est que de plus en plus, au plus, la CENI actuelle est en train de poser des actes tels que nous venons de suivre, et au plus, cette CENI va se décrédibiliser, et cette décrédibilisation va avoir un impact sur, justement, la transparence et surtout l'appropriation du processus par la population. Ça veut dire que la population risque à un moment donné de plus croire en ce processus. Et là, en tout cas, si la population ne croit plus au processus, là, nous risquons à nouveau d'avoir des problèmes comme on a toujours eu au Congo avec la question des résultats des élections. Mais dans le contexte actuel, où on a un contexte qui est assez tendu, nous risquons d'aller dans des violences communautaires qui pourraient dégénérer en des guerres dont la population serait toujours et encore la victime.
Monsieur Dieudonné Mirimo, lorsque vous suivez les débats, les avis des uns et des autres, les mots qui reviennent souvent, c'est cette question d'autonomisation financière de la CENI. Vous avez été à la CEI à l'époque. Est-ce que la CEI avait bénéficié de l'autonomie financière? Et si vous avez eu à bénéficier de cela, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la CENI d'aujourd'hui n'a pas cette autonomie financière?
Merci beaucoup Guy pour cette question. En fait, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI est claire. Elle donne à la CENI l'autonomie administrative et financière. Donc la CENI doit recevoir du gouvernement les fonds sous forme de dotations. Et la CENI les gère sur base de ses urgences opérationnelles. Mais quand nous observons les interférences du gouvernement dans la gestion, au point même de passer commande, par exemple, des véhicules de la CENI, ça entame dangereusement cette autonomie financière de la CENI. Je ne sais pas jusqu'où nous irons par rapport à ce que nous sommes en train d'observer, mais je voudrais relever, parce que cela a été dit, qu'il n'y avait pas un problème du personnel de la CENI pour l'organisation de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, parce que le personnel est en place, il a été formé, également les arriérés ont été payés, nous avons suivi tout ce que l'argent a été décaissé pour payer les arriérés du personnel de la CENI qui était de plus de 10 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à quelque chose qui inquiète l'opinion. Parce que si la CENI ne peut pas jouer son rôle, et s'il ne peut pas être autonome dans la gestion, dans la prise en charge des opérations électorales, en tout cas, il sera très difficile de pouvoir organiser les élections que tous les Congolais attendent en 2023.
Et donc, à l'époque, à la CEI, vous avez pu bénéficier de cette autonomie financière?
En tout cas, je peux dire que nous avons bénéficié de l'autonomie, parce que d'un côté, nous avions un financement de la communauté internationale qui était géré par le PNUD à travers le Basket Fund, mais nous avions également la dotation du gouvernement qui venait régulièrement à chaque fin du mois. Donc, nous n'avons pas connu vraiment cette interférence qui entamerait l'autonomie administrative, mais surtout financière de la CENI. Et à la fin, comme c'est prévu dans la loi, c'est la Cour des comptes qui est chargée d'auditer la CENI et de faire rapport à l'Assemblée nationale.
Monsieur Dieudonné Mirimo, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle, qui a nous appelé depuis la ville de Beni au Nord Kivu.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. À mon avis, ce report témoigne un mauvais départ pour la CENI qui confirme déjà sa dépendance du pouvoir en place. Je pense que la CENI devrait redorer son blason en organisant cette élection pour témoigner son indépendance vis-à-vis du régime en place, tout comme de l'opposition. Car c'est tout à fait inconcevable qu'à cause des divergences de vie au sein de l'Union sacrée de la nation, qu'on puisse assister à ces reports des élections.
Dieudonné Mirimo?
Je crois que je l'ai dit au début de cette émission que ça m'étonnerait que la CENI puisse jouer à ce jeu de politiciens qui, lorsqu'ils ne s'accordent pas dans leur parti politique ou regroupement politique, que la CENI puisse reporter l'élection à cause de cette raison-là. Mais si c'est cela la raison, parce que ça a déjà été dit par mes co-débatteurs et les auditeurs sont en train d'y revenir, ça va effectivement entamer sa crédibilité. C'est un mauvais signal parce que la CENI, comme vient de le dire M. Sambili de Beni, la CENI doit redorer son blason, doit mettre toutes les parties prenantes en confiance. Et avec ce jeu de ping-pong auquel nous assistons, ça va entamer dangereusement sa crédibilité et ça ne va pas rassurer, en tout cas, toutes les parties prenantes.
Merci Robert Kabakela. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bounia, en Ituri.
Bani Doloa, depuis la province de l'Ituri, à Bounia. À mon humble avis, ces reports des élections des gouverneurs par la CENI prouvent une fois de plus qu'elle a un problème de planification. Avant de lancer un calendrier électoral pour les élections de gouverneur des provinces, la CENI devrait s'assurer de son exécution dans un délai précis. Ces reports créaient une perte du temps et ces pertes du temps pourraient avoir des répercussions non seulement sur l'organisation des élections de ces gouverneurs, mais elles peuvent perturber le calendrier de 2023. C'est pourquoi les animateurs de cette institution doivent être prévoyant dans toutes leurs attributions. Nous profitons de cette occasion pour dire au président de la CENI de prendre des mesures pour crédibiliser cette institution et la rendre efficace, car elle constitue la source de confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
Robert Kabakela?
Oui, je pense que les camarades ont une part des raisons. dans la mesure où, je l'ai dit tantôt, est-ce que les fêtes pour la CENI de publier les calendriers et puis les décaler, est-ce qu'il l'a publié sur base d'une promesse faite par le gouvernement par rapport à la disponibilité des fonds? Ça, c'est un des deux. Est-ce que la CENI a publié ses calendriers en ayant une idée sur l'appurement des émoluments des électeurs, parce que les élections vont être... Il y a un électorat qui est constitué des députés provinciaux qui ont réclamé l'air, qui ont dit, qui ont menacé de ne pas participer à cette élection si jamais leurs émoluments de 10 mois ne sont pas payés. Effectivement, ces retards, la CENI, est-ce qu'avait-il tenu compte de tous ces paramètres avant de publier son calendrier? Parce que l'organisation des élections, c'est le gouvernement qui constate et qui demande à la CENI d'organiser l'élection dans telle ou telle autre province parce qu'il y a des missions, parce qu'il y a élection d'un gouverneur. Et c'est après avoir maîtrisé tous ces paramètres que la CENI publie son calendrier. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit au départ ici que nous avons des craintes par rapport à l'organisation des élections générales 2023, nous avons des craintes que ces élections soient tenues dans le délai si la CENI n'a pas la maîtrise de tous les paramètres, et principalement les paramètres liés aux fonds qui doivent être mis à la disposition de la CENI en ce qui concerne les opérations électorales.
Et professeur Bob Kabamba, que recommandez-vous aussi bien au gouvernement qu'à la CENI pour la bonne tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs?
Ben, je pense que là, il y a quand même une dynamique que l'on a observée ces derniers jours, lorsque l'on a vu qu'il y a eu une réunion entre la CENI, l'ONUP et le PCR, c'est-à-dire le Bureau central de recensement à travers l'Institut national de la statistique, et le président de la République, pour essayer de s'harmoniser, par exemple, sur les questions de mutualisation que le gouvernement avait décidé à son temps. Et cette dynamique, de mon avis, c'est un premier pas qui doit continuer maintenant avec une espèce d'harmonisation et de compréhension et de travail entre la CENI et le gouvernement, surtout par la mise en place de ce qu'on appelle un outil de gestion qui va être un outil de gestion, donc une structure de gestion de coordination permanente entre la CENI et le gouvernement, pour que la CENI, lorsqu'elle a la maîtrise des différentes contraintes, qu'elle puisse publier un calendrier en bonne et due forme, et pas publier un calendrier sur base des hypothèses ou bien sur base de promesses du gouvernement. On parle d'une élection, une élection n'est pas organisée sur base des promesses ni sur base des hypothèses. Une élection, c'est mathématique, c'est une organisation, c'est technique, et on doit être outillé pour le faire. Et malheureusement, ce qu'on est en train de voir, c'est que pour l'instant, la CENI n'y est pas. Et aussi par rapport, je pense aussi qu'il y a un problème de renforcement des capacités de l'équipe dirigeante de la CENI pour qu'elle comprenne bien son rôle et qu'elle essaye, dans la mesure du possible, de partager son rôle, soit approprié par les parties prenantes, pour lui faciliter la tâche. Tant que ce n'est pas fait, alors nous allons continuer avec des petites guéguerres entre les différentes institutions, entre les différentes parties prenantes, et avec comme conséquence, comme je l'ai dit, décrédibilisation du processus électoral.
Et votre mot de la fin, professeur Bob Kabamba?
Professionnalisation de l'équipe de dirigeants, c'est vraiment une priorité, et aussi l'appropriation par le gouvernement de l'autonomisation, aussi bien financière que technique, de la CENI, et la mise en place de cet outil de coordination entre la CENI et le gouvernement, pour essayer d'harmoniser les points de vue avant que la CENI ne puisse prendre ses décisions, notamment publication d'un calendrier électoral.
Monsieur Dieudonné Mirimo, vos recommandations à l'endroit du gouvernement et de la CENI pour que l'on puisse organiser les bonnes élections, les prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs?
Nous recommandons le respect des textes, à l'occurrence la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, que chacun puisse jouer sa partition, jouer son rôle, qu'on puisse doter la CENI des moyens qui lui permettent non seulement de fonctionner, mais surtout de préparer les opérations électorales, parce qu'il ne nous reste que très peu de jours avant d'arriver à cette échéance. j'ai suivi que les auditeurs ont réclamé, lorsque la CENI a publié la feuille de route, le calendrier électoral. Mais la CENI ne pourra pas publier le calendrier encore une fois si elle n'a pas des assurances que le gouvernement va financer toutes les activités qui sont prévues dans le calendrier jusqu'à l'organisation des différents scrutins. Donc c'est le respect et de la loi, mais également des engagements quant à la disponibilité des fonds à la CENI.
Et votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Par rapport au débat du jour, nous souhaitons que le calendrier qui a été réaménagé puisse être respecté et que, comme l'a indiqué Robert Kabakela, les électeurs qui sont concernés pour cette élection, c'est-à-dire les députés provinciaux, puissent être payés, parce que s'ils ne sont pas payés comme ils l'ont indiqué dans leur communiqué, ils ne pourront pas voter et donc l'élection ne pourra pas avoir lieu.
Robert Kabakela, vos recommandations pour la bonne tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs?
Nous pensons, comme venait de le dire mes prédécesseurs, il faut absolument que les dispositions légales soient respectées par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut mettre à disposition de la CENI les moyens conséquents pour lui permettre d'organiser les élections, parce que l'exclusivité des opérations électorales reviennent à la CENI, mais aussi à la CENI de ne pas se laisser berner par des promesses qui ne lui permettent pas de tenir parole. Sinon, comme on l'a dit, il y a risque de décourager ou d'amener les Congolais ou les électeurs à se désintéresser des actions de la CENI. Mais aussi la CENI doit, pour permettre à la communauté, permettre aux citoyens de s'approprier les processus, doit donner les informations nécessaires, communiquer suffisamment pour éviter toute rumeur ou tout malentendu autour du processus électoral.
Et qu'est-ce que vous recommandez aux députés provinciaux qui sont, n'est-ce pas, les principaux électeurs par rapport à cette élection?
Nous pensons qu'ils doivent savoir qu'il y a les communautés entières, des provinces entières qui attendent, qui ont délégué leur pouvoir pour créer les représentants, pour eux qui travaillent en faveur du développement de nos provinces respectives. C'est une charge, c'est une responsabilité. Je pense qu'ils peuvent, tout en réclamant leur émolument, ce qui est un droit, mais aussi doter leurs provinces respectives des dirigeants devant prendre en charge les différents besoins de ces provinces.
Merci à vous, M. Dieudonné Mirimo, au professeur Bob Kabamba et à M. Robert Kabakela d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Basunga qui était à la technique et aussi à Kelly Nkute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci encore et bonne suite de programme sur Radio Capi.